France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Preuve de l'amitié par-delà la mort de Sam Safran pour Giacometti. Ce témoignage unique, à l'occasion d'une semaine consacrée sur France Culture, en janvier 2008, aux peintres et sculpteurs. Une fois n'est pas coutume, du jour au lendemain, proposé par Alain Weinstein, débutait avec une archive tirée de la série « Couleurs de ce temps » par Georges Charbonnier et Alain Truta, c'était en 1950. Pour Sam Safran, une rencontre décisive qui l'a emmené jusqu'à ses pastels et gouaches aux architectures tournantes, aux atmosphères hitchcockiennes et que nous redonne aujourd'hui la fondation Giadana, avec cette même quête, sans Dieu ni maître et sans fin, de découvrir ce lieu secret en nous-mêmes, à partir de quoi, selon Jean Genet, eût été possible une aventure humaine tout à fait différente.
Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, autour d'Alberto Giacometti, avec ce soir, Sam Safran.
Là, il y a une chose qui m'a frappé, c'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai vu que dans cette personne, la seule chose qui restait vivante, c'était le regard. C'est pas ? Que le reste, la tête qui se transformait en crâne, devenait à peu près l'équivalent du crâne du mort. Mais ce qui faisait la différence entre le mort et la personne, c'était son regard. Et alors, je me suis demandé, et j'ai pensé depuis, si au fond, il n'y a pas d'intérêt de... pas grand intérêt de sculpter un crâne, un mort. On a la volonté de sculpter un vivant. Dans le vivant, il n'y a pas de doute que ce qui fait vivant, c'est son regard. C'est comme si on voulait, c'est ça qu'on voulait sculpter, c'est pas ? Et c'est là où je reviens là, aux Hébraïtes et aux Laocoon. La sculpture des Hébraïtes est vraie, mais touche comme vraie, parce qu'elle a un regard.
Et la sculpture grecque n'en a pas.
Ça n'est pas l'imitation d'un œil, mais là, bel et bien le regard. Et je ne vois que le regard. Tout le reste, c'est un support de regard. Par contre, la sculpture grecque n'a pas de regard. C'est le cadavre que j'analyse et je regarde. Et alors là, il arrive une chose étrange, c'est par exemple, dans la sculpture égyptienne, qui m'a toujours beaucoup troublé, attiré, il y a le scribe, qui est peint, bien entendu, et on a reproduit les yeux en verre ou avec des pierres. On a imité au plus près possible l'œil même. Mais le scribe ne vous regarde pas, il a un œil en verre. Et cela me gêne, malgré l'admiration que j'ai pour le scribe, cela me gêne. Et alors, l'Égyptien qui a fait le scribe est évidemment infiniment plus fort, il connaît infiniment plus de choses, et domine infiniment plus de choses que celui qui a fait la sculpture des Nouvelles Hébrides. Mais alors, il se fait que celui qui a fait la sculpture des Nouvelles Hébrides, arrivant à donner le regard sans modeler l'œil, et que seul le regard compte, est beaucoup plus près de la réalité, de ce qu'il s'agit de faire, n'est-ce pas ? Et me donne ça beaucoup plus, de manière plus efficace que l'Égyptien. Même je pourrais dire qu'il y a une espèce de contradiction entre les connaissances que démontre le scribe et l'espèce presque, je pourrais dire, presque de naïveté ou de bêtise qui fait faire un œil en verre, n'est-ce pas ? Ou l'autre, il n'y en a pas trace. C'est de la sensibilité et de l'intelligence. Dans le fait qu'il a fait un regard, même si la sculpture, si le côté physique du personnage a peut-être un côté naïf et pas dominé, n'est-ce pas ?
Thank you.
C'est avec Sam Safran que va prendre fin notre semaine spéciale de Surpris par la nuit et du jour au lendemain autour d'Alberto Giacometti. Sam Safran, jusqu'à ce soir, et pour parler de son ami Giacometti, avait toujours refusé de donner des interviews. Cette dernière émission est donc aussi une première. Né en 1934 à Paris, Sam Safran, maître reconnu de la peinture au pastel et à l'aquarelle, s'est initié au dessin dans les cours du soir, puis à la grande chaumière, comme Giacometti, avant d'être conforté dans sa vocation par son amitié, essentiellement avec Alberto Giacometti et son frère Diego.
Ma rencontre est assez curieuse parce qu'il faut que je revienne en arrière sur mon enfance à cause de ma condition de juif. J'ai jamais été à l'école. Je suis né en 34 et puis il y a eu la guerre et j'étais caché. Donc après la guerre, ma mère et moi et ma sœur, nous sommes partis en Australie. Et nous sommes restés là-bas 3 ans et demi. Nous sommes arrivés fin 50, décembre 50 à Paris, et moi je voulais être peintre, ce qui posait des problèmes à ma mère, parce que je trouvais que c'était pas un métier, et donc j'essayais de survivre, plus ou moins, j'étais garçon de bureau à l'American Express, et puis après au Congrès juif mondial. Et puis j'ai un copain qui m'a filé un bouquin, qui a déterminé ce qui allait suivre avec Giacometti. C'est Caput de Malaparte. Il y a un moment donné, dans son roman, il y a une courte phrase où les Panzer Division partent au front russe et ils sont guidés par des cadavres gelés et Malaparte dit comme les sculptures de Giacometti. Et ça m'a interpellé, j'avais 17 ans, ça m'a énormément interpellé. Mais je ne savais pas qui était Giacometti. C'était que des cadavres figés soient apparentés à Giacometti, ça m'avait frappé. Mais qui était Giacometti? Je ne savais pas. Je le découvre beaucoup plus tard, j'ai 19 ans, il fait une exposition chez Mag, et c'est un coup de foudre. Je ne peux pas vous expliquer, c'est un véritable coup de foudre. Et je deviens un groupie, comme vous avez des groupies de Johnny Hallyday, de Claude François, je deviens un groupie. Je passe mes nuits à tourner autour de son atelier, juste pour le voir. Et en 60-61, au sortir d'un vernissage arrosé à la coupole d'un sculpteur qui malheureusement n'est plus célébré, qui s'appelait Jacques Delahaye, je passe avec un ami qui sortait de la guerre d'Algérie. Et voilà qu'au bar du Dôme, qui n'existe plus non plus, il y avait Alberto. Alors j'ai dit, oh, c'est Alberto. Comme je suis un timide agressif, je suis rentré, j'ai commandé, comme on dit vulgairement, une mousse, c'est-à-dire une bière. Je l'ai fixé avec une arrogance, une effronterie totale. Oui, il était très gêné, il était tout seul. Et puis au moment de partir, quand j'ai payé mes consommations, j'ai été vers lui, je lui ai dit, monsieur, ne croyez pas que je sois arrogant. Je vous admire depuis toujours. Et il m'a dit, asseyez-vous. Et nous avons passé une nuit à discuter. C'est ma première approche avec lui. Et c'était extraordinaire parce que je quittais des amis peintres, entre autres Yves Klein, qui venait de créer l'école de Nice, avec Armand, j'en passe et des meilleurs. Et moi, je revenais à la figuration. Alors, j'ai expliqué à Alberto que, avec toute cette naïveté de jeune homme, que j'y arrivais pas. Et ça l'a séduit. Il dit, moi non plus. Parce qu'il était toujours en train de se mettre en question. Et vous savez ce qui est amusant, là, c'est que je lui ai demandé s'il accepterait de venir dans mon atelier. C'était un gourbis. Et figurez-vous que j'avais une électricité chancelante, comme on dit. Il n'a jamais vu. J'ai eu une panne et il n'a jamais vu mon travail. Et des années plus tard, quand je suis devenu ami avec Diego, Diego me disait, il aurait aimé. Et pour moi, c'était mon bâton de maréchal. C'est comme ça que je l'ai rencontré.
Vous vous souvenez de votre première conversation avec Giacometti?
Oui. Vous savez, c'était premièrement hyper séduisant, avec une culture extraordinaire, mais surtout... le côté dramatique et tragique, c'était qu'il n'y arrivait pas. Il cherchait l'émotion première. Et donc, toute la soirée était basée là-dessus. Il disait, je n'y arrive pas, vous non plus. Sommes-nous dans la bonne voie? C'est comme ça que ça a démarré. Il était obsédé, c'était un obsessionnel, obsédé par l'idée de trouver l'essentiel. Alors la conversation, je m'en souviens comme si c'était hier. C'est très curieux d'ailleurs, parce que c'est un homme qui avait des lettres, qui connaissait, qui était très cultivé. Quand il parlait de philosophie, il allait vers les grands sceptiques. Et c'est un homme qui se remettait en question. Comme tous les grands, comme Gracq que j'ai eu à la maison, comme... Paulhan, comme Cioran, parce que j'ai très bien connu Cioran, c'est des gens très humbles. Alors, lors de notre conversation, on a parlé de Picasso. Picasso était très méchant avec lui. Picasso était méchant avec les gens qui avaient du talent, sûrement. C'est le côté hispanique. Et ce qui était intéressant, c'est que par la suite, je crois que c'est l'or... Bernadac a fait une compilation des paroles de Picasso. Picasso a dit une chose très juste. Il a dit Alberto a inventé une chose nouvelle. C'est l'homme dénudé du superflu. Il adorait par exemple les peintures pariétales. Ce qui est très curieux, vous savez, c'est que la seule personne, je crois, qui l'impressionnait, c'était Beckett. En dehors de Beckett, il était, comme une sorte d'oracle au milieu de personnages un peu, convulsifs. Mais pour lui, la convulsion était plus importante, donc il était dans un autre niveau, quoi. Ça, c'était les premiers trucs. Et puis après, je l'ai revu.
Vous êtes allé le voir rue Hippolyte Maindron?
Non, j'ai été une fois rue Hippolyte Maindron, mais je le voyais au Tabac Didot. Vous savez que maintenant, il y a une banque qui faisait le coin de la rue d'Alésia et de la rue Didot. Alors, il arrivait vers 3h de l'après-midi, commandait un crème et un œuf dur. Et comme personne n'arrivait, parce que vraiment, il était très entouré, il y avait beaucoup de gens qui venaient le voir, j'en profitais pour lui parler de mes bobos. Les bobos de l'époque, vous voyez, avec l'égoïsme du jeune peintre qui ramène tout à lui. Et il était très gentil. Très gentil. Et puis arrivaient les gens, et moi je me tirais parce que je ne voulais pas l'emmerder. Il n'y avait pas que moi, il y avait d'autres artistes de ma génération. Il y avait Avigdor Harika, très grand artiste. Il y avait d'autres, mais on ne se côtoyait pas. Moi, je le piquais quand il était seul. Quand il était plus seul, je le laissais tranquille, vous voyez.
Qu'est-ce qui vous fascinait dans l'art de Giacometti ?
Oh, ce besoin de garder que l'essentiel. C'était provoquant à une époque où, assez baroque, l'après surréalisme, tout ça, il avait été surréaliste, comme vous savez. C'est ce besoin de dénuder et d'enlever le superflu. Ça provoquait, moi, le jeune peintre, beaucoup d'émoi. Parce que j'avais l'impression qu'il touchait à une vérité. Et comme j'ai toujours pensé que la vérité, ça n'existait pas, mais là, pour une fois, elle pouvait exister. Donc, comme beaucoup d'artistes très convulsifs en ce sens que, n'est-ce pas, le début des années 60, on est confronté au surréalisme, néo-surréalisme, auparavant le cubisme, le néo-cubisme, la nouvelle figuration, la peinture américaine, l'expressionnisme abstrait, ceci et cela. Les jeunes artistes vivent dans une confusion totale. Puis voilà-t-il pas qu'il y a un personnage au milieu de tout ça qui essaye de faire une figure et qui n'y arrive pas. Il le dit. Et en fait, je pense pas qu'il n'y arrivait pas. Je pense qu'il voulait aller jusqu'au bout. C'est un grand exemple, mais c'est aussi... moi, je ne souffrirai pas autant. Je ne veux pas faire une peinture parce qu'il en a bavé. Ça l'a tué. C'est ça qui était fascinant. Parce que c'était à l'encontre de toutes les modes qui existent encore aujourd'hui. Il était... singulier, pas pluriel, singulier. Avec, évidemment, un monologue prodigieux. Parce que quand vous reprenez ces interviews, le fameux film de Jean-Marie Drault, c'est quand même passionnant. Donc, vous savez, pour un jeune peintre, d'un seul coup, vous avez l'impression qu'on a le droit. On peut... se retirer des groupes. Et d'un seul coup, il y avait un singulier qui était à part, qui sortait de son atelier, qui n'arrêtait pas de crayonner la même tête indéfiniment, qui se posait des questions sur l'existence et l'existentiel, et qui voulait avoir le premier regard qu'on a oublié après qu'on soit nouveau-né. Et lui, il voulait récupérer cela. Donc pour quelqu'un de pas trop sot, c'était une leçon.
Donc il vous a aidé à y voir un peu plus clair vous-même dans votre propre démarche.
Sûrement, totalement. Alors vous savez, avec la maladresse de ma jeunesse de l'époque, parce que quand on est jeune, on est très maladroit et con, j'ai pris la plus belle fessée de ma vie avec lui. Quand un jour j'ai eu une mauvaise idée de lui dire que je n'aimais pas Cézanne. Et c'est comme si je l'avais assassiné. Parce qu'il vénérait Cézanne. Il m'a engueulé. Au point où j'étais au bord des larmes. D'autant que je le vénérais. Donc je recevais la fessée, comme on dit. Puis quand j'ai eu fini, m'a traité de crétin, d'imbécile, de sot, de foutez le camp, je ne veux plus vous voir, tout ça, je suis resté stoïque. Puis après, je lui ai dit, mais vous savez, Alberto, quoi que vous me disiez, quoi que je vous dise, je vous vénère. Et il m'a dit, ça alors, Et ça, ça l'avait énormément frappé. Parce qu'il était authentique. Vous savez, il était authentique comme pouvaient l'être certains grands personnages, comme Miro, comme Calder. J'ai pas connu, malheureusement, j'étais trop jeune, Matisse, mais il devait être comme ça. C'était des gens avec un tel talent intérieur qu'ils avaient une humilité et une civilité qui n'existe plus. Voilà.
Vous travaillez comme lui très tôt le matin ou très tard dans la nuit ?
Non, vous savez, la rythmique du travail est pour chaque artiste toujours très différente. Dans ma jeunesse, je travaillais la nuit. Aujourd'hui, je me lève très tôt et je travaille très tôt. Mais Alberto n'avait pas de vous savez, c'était très curieux. Il se levait vers 3h du matin. Il allait au Tabac Dido. Il prenait ce café crème. Il recevait ses amis. Moi, j'étais pas là parce que par pudeur, comme je le vénérais, je voulais pas l'emmerder. Il retournait à l'atelier travailler. Vers 11h30, il en avait marre. Il allait déjeuner, si je puis dire, à la coupole. Il rentrait assez tard parce que c'était un homme, vous savez, très ouvert aux autres. Plus ouvert que Beckett. Beckett était, je l'ai bien connu, et curieusement, Beckett était, je crois, la seule personne qui l'impressionnait. Il se ressemblait quelque part. Cet Irlandais et ce Suisse romanche, c'était très curieux. Mais Beckett lui en imposait. C'était le seul.
Et la complicité avec Diego ?
Alors, bon, ça, c'est, je dirais que c'est une des choses les plus remarquables qui soient dans l'histoire de l'art. On a quelques composantes de cet ordre, c'est Vincent et Théo Van Gogh. Diego était un homme, à l'époque où j'ai rencontré Alberto, qui était dans l'ombre. Il était à part. Il ne se manifestait que quand Alberto l'appelait, il était en dehors. Mais il s'occupait de tout. Alberto ne faisait rien sans lui. Alors par la suite, n'est-ce pas, il est mort en 66, on a contracté, ma femme et moi, une grande amitié avec Diego, et Diego m'a beaucoup parlé d'Alberto, et il y avait une vénération des deux. C'est rarissime. Diego est resté à Paris pendant la guerre pour protéger l'atelier de son frère. Et ça a été pratiquement jusqu'au bout. À la fin de sa vie, il s'est fait opérer d'un cataracte, il voyait plus très bien. Il avait décidé enfin de se mettre à la sculpture, mais jusqu'alors il faisait des meubles, parce qu'il ne voulait pas entacher l'œuvre de son frère. Puis il y avait la maman. Vous allez voir dans le livre que je vous ai passé, elle est omnipotente.
Ce livre, c'est un livre de photos de Cartier-Bresson.
Oui.
Que Cartier-Bresson, qui était aussi votre ami,
oui,
vous a donné. Parmi ces photos, il y en a un certain nombre de Giacometti.
Oui.
Et même quelques photos de Giacometti avec sa mère.
C'est ça. Curieusement, j'ai rencontré pour la première fois Henri, je l'admirais depuis longtemps, en 72. Vous savez, c'est très drôle parce que Henri Cartier-Bresson avait plus ou moins fait partie du groupe surréaliste par la branche Prévert, avant-guerre. Il connaissait Breton, bien entendu. Il avait connu tout le monde. D'ailleurs, avant-guerre, tout le monde se connaissait. Et Cartier venait dessiner chez moi. Et vous allez rire, Alain, parce que on allait prendre un croque-monsieur et un croque-madame, place de la mairie, que j'appelais la place rouge. Et Henri se lâchait, là. Il se lâchait totalement. et il racontait ses souvenirs. Et alors moi, je lui demandais, ça m'intéressait, parce que d'avoir un ami comme Cartier-Bresson qui a connu tout le monde, qui a connu Gandhi, qui a connu Marilyn Monroe, qui a connu... Enfin, j'en passe les meilleurs. J'avais envie de savoir comment était Alberto avant-guerre. Et Cartier m'avait dit, ni plus ni moins. Je dis, mais quand est-ce qu'il devient cet homme prodigieux? Il me dit, après la guerre, à la libération. Il passe 4 ans à Genève, et là, il en bave, je crois. Et il sort de là, exsangue, mais... je dirais, sa saga commence. Et Henri en était très conscient. Il m'a dit, parce qu'avant la guerre, il n'y avait pas que lui, il y avait Max Ernst, il y avait Masson, il y avait beaucoup. Et il était un parmi d'autres. Et puis en 45, c'est quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il y a eu une transformation qui s'est faite. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'était intéressant avec Henri, parce qu'il était très objectif, comme son appareil, son Leica. Et donc, on pouvait avoir des idées de ce que pouvait être... c'était des gens qui cultivaient le bordel, qui allaient au bordel, pas uniquement pour monter, pour se rencontrer. Et Henri m'a dit, je commence à le respecter en 44, à la libération de Paris, quand il rentre. Et c'est un autre homme. Il est miné par son travail, il a commencé à prendre cette idée que disait Picasso d'enlever le superflu. Et c'est tellement vrai qu'il y a, je crois que c'était en 64, au printemps, je flânais boulevard du Montparnasse, et puis je me retrouve devant la terrasse de la coupole. Et il était assis tout seul, avec ses journaux. Il lisait énormément. Il lisait tout. Son frère était pareil. Et je lui demande si je peux atterrir auprès de lui. Il me dit volontiers. Puis on commence à discuter de choses et d'autres. Puis on voyait, il y avait des clous, les gens traversaient. Puis il y avait une très belle femme qui allait traverser du Select à la coupole. Et il a eu ce mot extraordinaire, ça m'a beaucoup traumatisé. Il m'a dit, vous voyez, je la connais par cœur. Au fur et à mesure qu'elle avance, ça devient confusionnel. Ça m'avait... Et parce que à l'époque, on était dans des histoires d'abstraction, contre-figuration, de coterie, de ceci... personnage qui vous parle d'autre chose. Un philosophe. Un vrai philosophe. Et des années plus tard, quand il est mort, moi j'ai beaucoup fréquenté Diego, puis un jour il a eu une arthrose de la hanche. Il est parti se faire soigner à Cochin. Puis un jour il m'a dit, je te donne les clés, tu vas chez moi, il faut que tu me donnes... J'ai besoin de changer de slip, de truc. Tu verras en premier. Alors, moi qui suis un homme curieux, j'ai jamais monté dans sa chambre. J'ai pas trouvé ce qu'il voulait, mais j'ai regardé ce qu'il avait sur sa table de chevet, ses bouquins. Et au retour, à Cochin, j'ai dit, Diego, par rapport à Alberto, tu passes pour un con, pour un paysan. Mais t'es vachement lettré. Alors je dis, mais tu t'as des bouquins, mais t'es moins con que je pensais. Excusez du terme. Et il m'a dit, tu sais, Sam, j'adore passer pour un con. Parce que quand tu passes pour un con, les gens se lâchent et tu sais ce qu'ils ont dans le ventre. Vous savez d'ailleurs que Diego, au départ, n'était pas fait pour faire de la sculpture ou quoi que ce soit. C'était un voyou qui faisait de la contrebande. Et puis à un moment donné, Annette, la maman de l'Alberto, n'en pouvait plus. Elle avait des douaniers qui étaient là, ils foutaient la merde, tout ça, etc. Elle l'a envoyé à Alberto en disant, tu t'en occupes, après tout, c'est ton frère. Et c'était à l'époque où Alberto, pour gagner un peu sa vie, travaillait pour Franck, le décorateur, qui était incidemment l'oncle d'Anne Frank, le journal d'Anne Frank, ce que très peu de gens savent. Et il s'est mis à prendre le moulage, et puis il est devenu le bras droit de son frère. Vous savez, pour un garçon comme moi qui n'avait jamais fait d'études, qui, à cause de la guerre, qui, je tombais dans ce bain. C'était quand même quelque chose d'extraordinaire.
Quand vous travaillez au petit matin, Sam Safran, ça vous arrive de penser encore à Alberto et à ce qu'il pourrait vous dire
sur... J'y pense sans arrêt. Il fait partie de ma vie. Et je vais vous dire, j'ai eu très... Parce que dans votre émission sur Alberto, il y a quelqu'un qu'il faut absolument interviewer, qui l'a très très bien connu et qui a fait une très belle biographie. C'est James Lord.
Il n'a pas voulu.
Ah, il n'a pas voulu.
Je lui ai proposé, il n'a pas voulu. Il a hésité, il a finalement dit non.
C'est dommage parce qu'il l'a bien connu et sa biographie est remarquable. Et donc, ce qui me concerne, parce que excusez-moi d'être un peu narcissiste, je dois dire qu'il est constamment présent dans mon travail. Quand ça va mal, je pense à lui. Vous savez, il arrivait au Tabadito, il disait, je me donne encore une semaine, j'arrête. C'est infernal, j'y arriverai jamais, jusqu'au bout. Il y a un très joli texte de Diego, Claude Bernard avait fait une très belle exposition de dessin d'Alberto, il y a un très beau texte, vous ne connaissez pas. Je vais essayer de vous le trouver parce que j'ai une bibliothèque. Très beau texte qui pourrait être une exergue par rapport à votre émission de Diego sur son frère, qui est magnifique. Alors à côté de ça, vous savez, son frère cadet qui a eu 100 ans, Bruno, était architecte. Et au moment de l'exposition internationale suisse, dans les fin des années 30. Son frère avait un pavillon suisse, parce qu'il était, architecte, surtout spécialisé dans les cliniques et les hôpitaux. Et il lui a dit, bon, tu me fais une sculpture. Alors je lui ai dit, oui, tu me prépares simplement un cube de béton d'1 mètre carré, et je te ferai quelque chose dessus. Et évidemment, ça a été une catastrophe, parce que la sculpture était grande comme ça. C'est tout le problème de l'objectivité et de la subjectivité. Alberto, c'était ça, c'était un racé qui avait le sens. Alors, le projet a été détruit et parce que les Suisses n'ont pas compris. Mais il y avait cette idée de l'espace. Alors, ce que je regrette, c'est que vous ne l'ayez pas connu, que je n'en ai plus. Parce que le personnage était très attachant.
Comment le décrire à ceux qui ne l'ont jamais rencontré, cet homme ?
Mais vous savez, il y a quand même quelques films, c'est fascinant. C'est un personnage fascinant, que je trouvais très très beau, plein de charme. Passer des soirées d'hiver à tourner juste pour le voir. Rien que pour le voir. Et puis un jour, j'ai vu une chose assez bizarre. J'ai vu sortir de son atelier avec une femme. Le taxi les attendait, ils sont rentrés dans le taxi. Et la femme, c'était Marlène Dietrich. Et figurez-vous que j'ai cru que dans un délire alcoolique, j'avais rêvé. Et les années plus tard, quand Diego était à l'hôpital à Cochin, j'avais dit, écoute, ôte-moi d'un doute. Un soir, j'ai vu Alberto sortir de son atelier avec Marlène Dietrich. Est-ce que j'ai rêvé? Mais pas du tout. Ils ont eu une histoire d'amour en tout bien tout honneur, platonique. Et c'était tellement bizarre, cette femme hyper sophistiquée avec cet homme qui lui, au contraire, c'est curieux. Hein.
Vous avez rencontré Caroline ?
Oui, mais la pauvre, elle vit très mal actuellement, elle est dans la misère, elle habite Nice. Mais ça a été son égérie. Vous savez, de temps en temps, elle s'est retrouvée à la petite roquette, parce qu'elle était pute. Et Alberto venait l'attendre.
Il l'aimait beaucoup.
Je ne sais pas si le mot convient, Alain. Je crois que la seule chose que... Alberto, c'est pas un homme qui aimant, simple. C'est beaucoup plus compliqué. C'est passionnel, c'est tellurique. Je crois que ce qu'il aimait, c'était moins de faire une bonne image que d'essayer de faire une image. C'était ça, sa problématique. Donc, dire qu'il aimait, c'est lui, elle comptait. Alors, je ne sais pas s'il l'aimait beaucoup, mais elle comptait. Alors, le problème avec Annette était difficile, hein, parce qu'elle ne s'en laissait pas compter, c'est une Suissesse, n'en parlons pas. Il y avait eu aussi, auparavant, Isabelle avant-guerre, Rothbard, qui était aussi l'égérie de Bacon. Et puis une femme qui a beaucoup compté dans sa vie, qui avait été une épouse de Mata et qui par la suite est devenue, à son divorce, l'épouse de Pierre Matisse. C'est elle qui a incité Pierre à prendre Alberto pour New York. Alors, il y avait Patricia Matisse, il dégageait énormément, c'est-à-dire que c'était un homme qui avait... Une teneur très séductrice, il aurait pu faire du cinéma, je crois. Vous savez, quand Jean-Marie Droit a fait son film, mon bougnat a été scotché par cela. Je dirais, si vous voulez, que pour moi, bon, il est physiquement parti, mais pour moi, il est mentalement présent continuellement. Je l'écoute souvent, comme son frère Diego, d'ailleurs, qui m'avait dit un jour que j'étais dans la panade, tu gagneras de l'argent, et le pire reste à venir. Parce que quand Alberto a eu le prix de la Biennale de Venise, d'un seul coup, ça a éclaté. Ouais. Et ils ont eu les pires emmerdes. Les tapeurs, les gens, les trucs, les machins.
Comment avez-vous appris la mort de Giacometti, Sam Safran ?
C'est une bonne question. Je vais vous dire, nous avions un ami commun, Alberto et moi, c'était le peintre Riopel. Nous étions... Riopel est rentré à la Galerie Mag en 1966. Nous étions rue du Bac dans sa petite Simca qui avait la radio. Et nous avons appris ça par la radio et on a pleuré tous les deux. C'est curieux, hein ? On a été très émotionnés. On savait qu'il allait plus. On voyait. Mais on ne pensait pas. D'ailleurs, Riopel avait des problèmes avec son genou. Et il avait dit... Il aimait beaucoup... Giacometti l'aimait beaucoup. Il avait dit, je dois me faire soigner à Coire. Tu ne veux pas venir avec moi. Sans, je ne serai pas tout seul. Et là, on a énormément pleuré. Ça nous a fait un choc parce que je pense qu'Alberto se rendait pas compte à quel point nous l'aimions. Il était trop pris par son travail. Il y avait que ça. Mais ça ne l'empêchait pas d'être ouvert à tout le monde. Je regrette que vous ne l'ayez pas rencontré. Vous l'auriez beaucoup aimé. Mais vous savez, le problème avec Alberto, c'est qu'on pourrait en disserter pendant 20 000 ans, tellement il était riche, intérieurement.
Sam Safran parlait ce soir d'Alberto Giacometti. Thank you. lendemain, Michel Mestre, Mehdi Eladj, Alain Weinstein. Bonsoir.
C'était une émission diffusée la première fois le 4 janvier 2008.